des Sadducéens, ceux qui prétendent qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus et ils l'interrogèrent. Maître, Moïse nous a donné cette loi. Si un homme a un frère marié, mais qui meurt sans enfant, qu'il épouse la veuve pour donner une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le deuxième, puis le troisième, épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme, de qui sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'auront eue pour femme ? Jésus répond, « Les enfants de ce monde se marient, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne se marient pas, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont fils de Dieu en étant héritiers de la résurrection. Quant à dire que les morts doivent ressusciter, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous vivent en effet pour lui. » Voilà, quand on dit une charade, il ne faut pas se tromper. Et vous avez remarqué comment, à la fois dans cet évangile et puis dans la première lecture, on nous présente des choses un peu curieuses, des cas de figure, où il y a 7 personnes, 7 étant un chiffre symbolique pour signifier au fond une plénitude, une totalité. Mais ici, à propos de la résurrection, on vient poser à Jésus une colle. On vient poser à Jésus une colle. On vient poser à Jésus une question dont on espère bien qu'il ne pourra pas se tirer. Et voilà que Jésus va placer la réponse sur un autre plan. En effet, imaginez que la résurrection soit une deuxième vie comme celle qu'on a eue sur la terre. C'est une fausse conception, c'est une façon de penser qui est erronée. C'est faux. Il n'y a pas de deuxième vie comme celle qu'on a sur la terre. Il n'y a pas de... C'est pas la réincarnation, la résurrection, il ne faut pas se tromper. Vous voyez, on peut rejoindre d'ailleurs cette question qui est souvent posée aujourd'hui par des jeunes, mais aussi par des adultes. Qu'est-ce qu'il faut penser de la réincarnation, puisque tout le monde en parle? Mais la vie dans le monde à venir, ce n'est pas une réincarnation, ce n'est pas une deuxième chance, ce n'est pas une deuxième vie, second life. Ce n'est pas un jeu virtuel, ce n'est pas un jeu vidéo. Et c'est autre chose, c'est une vie dans la gloire de Dieu, une vie où nous sommes transfigurés, ressuscités, où nous ne pouvons plus mourir, comme dit Jésus. Ils ne peuvent plus mourir, dit Jésus. Ils sont comme les anges dans le ciel. Il faut entendre quand même ce que dit Jésus là. C'est un peu surprenant. Ça veut dire que nous sommes transformés pour avoir véritablement une vie, un corps spirituel qui ne peut plus être atteint par la souffrance, par le vieillissement, par la mort, qui est tout à fait transformés et transfigurés. Ils ont pour héritage la résurrection, est-il dit. Je ne sais pas si vous avez entendu ce mot aussi, héritage, notre héritage, la résurrection. Ce serait sensationnel si dans nos journaux locaux, on pourrait lire quelquefois au lieu de « Il a gagné en grattant 300 millions d'euros, son héritage, c'est la résurrection dans les ciels. Vous trouvez que c'est un peu léger comme comparaison, mais pourtant, nous devrions avoir cette certitude que nous avons un héritage dans le ciel qui nous attend, qui est la résurrection d'entre les morts, et ça nous est promis, nous ressusciterons parce que Jésus est déjà ressuscité. Donc pour Jésus, venir parler de Dieu comme d'un Dieu des morts, ça ne l'intéresse pas, il dit Dieu est le Dieu des vivants, des ressuscités. Comme il est dit dans l'Ancien Testament, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et on considérait par là que Abraham, Isaac et Jacob étaient toujours vivants en Dieu. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Clairement, Jésus fait comprendre que nous ne devons pas imaginer que la vie dans la résurrection est la même que sur la terre. Elle est transformée, transfigurée, elle est spirituelle. Et si, au fond, le mariage est un chemin pour progresser à deux, vers l'union à Dieu, hein, le mariage est une progression à deux, vers une union totale à deux, c'est bien de cela qu'il s'agit, au fond. Dans l'au-delà, il n'y a plus à proprement parler de mariage. Il y a un amour qui est différent, qui est universel, en quelque sorte, où nous pouvons être unis à toutes les autres créatures, à la fois humaines et angéliques, de façon nouvelle. Nous pouvons communiquer avec toutes les autres créatures de façon nouvelle. C'est un peu cela que Jésus signifie en disant « Il ne se marie pas, le mariage n'est que pour la terre. » Mais dans la vie de gloire, l'union d'amour, elle est avec Dieu seul. C'est pour ça qu'il y a deux chemins pour y parvenir, soit le chemin du célibat consacré, soit le chemin du mariage. Mais dans l'au-delà, l'union, elle n'est pas avec une personne particulière, elle est avec Dieu. En ce sens, vous comprenez bien, le célibat consacré est un signe avant-gardiste de ce qu'il y aura dans l'au-delà. S'il est bien vécu, s'il est vraiment vécu de façon incandescente, comme un amour de Dieu, si on vit son célibat consacré en se traînant et en disant « Oh là là, qu'est-ce que j'aurais été mieux si j'étais marié ?» Évidemment, ce n'est pas un signe de grand-chose. Mais s'il est vraiment vécu par amour de Dieu, alors c'est un signe d'avant-garde qui nous annonce ce que ce sera dans la vie éternelle, l'union d'amour avec Dieu que nous vivrons éternellement. En ce sens, on peut comprendre que l'Église insiste tant sur la valeur de ce signe, à la fois pour les religieux, qui vraiment a un appel à la vie consacrée, et aussi, l'Église le dit, pour les hommes qui sont dans le ministère presbytéral, qui sont prêtres, parce que le célibat consacré n'est pas obligatoirement rattaché au sacerdoce en soi, théologiquement parlant. C'est une décision de l'Église, parce qu'elle considère que c'est un signe qui convient bien à l'exercice du sacerdoce. En Orient, les prêtres, certains prêtres sont mariés, en Occident, ils sont tous célibataire consacré, mais parce que l'Église estime que c'est un signe de valeur à garder et à ériger comme signe de ce monde à venir, ce monde qui vient. Demandons au Seigneur d'avoir cette assurance intérieure, cette conviction ferme, cette espérance assurée que nous ressusciterons. Quand on interroge les chrétiens sur la question de la résurrection, les sondages sont vraiment très bas. Il y a beaucoup qui ne croient pas à la résurrection, en fait. Et c'est vraiment une question pour notre catéchèse, mais aussi pour la mise en œuvre d'une foi vivante. Une foi vivante, parce que quelqu'un qui ne croit pas qu'il ressuscitera, quelque part, il est complètement à côté des promesses de Jésus. C'est une foi qui n'est pas opérante. À quoi lui sert sa foi et son espérance, puisqu'il n'espère pas ce que Jésus a promis? Et donc, quel héritage aura-t-il, puisqu'il ne l'attend pas, cet héritage? Si notre héritage est la résurrection, il nous faut l'attendre et la désirer, et il nous faut avoir la joie de cet héritage dès maintenant. Et il faut demander au Seigneur cette grâce de nous fortifier dans la foi et dans l'espérance pour que nous puissions en témoigner autour de nous. C'est bien aussi le sens de l'engagement d'un certain nombre d'entre nous ici et ailleurs dans les équipes de sépulture. Les personnes qui sont, au nom de la communauté chrétienne, les personnes qui accueillent, qui accompagnent les personnes en deuil, sont là pour les aider à franchir ce pas d'une espérance plus vive et plus opérative en la résurrection pour leurs défunts et en la certitude de la vie éternelle dès maintenant, avant la résurrection, de la vie en Dieu dès maintenant, car la résurrection ne sera qu'à la fin des temps, quand Jésus viendra dans la gloire. C'est un beau travail que celui des équipes de funérailles qui œuvrent dans nos paroisses pour accompagner les personnes qui viennent de perdre un être cher. Et nous sommes tous à ces moments-là provoqués à poser notre acte d'espérance et de foi. Ce que nous célébrons maintenant, dans cette seconde partie de l'Eucharistie, c'est vraiment Jésus, celui que nous célébrons, c'est vraiment Jésus ressuscité. Celui auquel nous communions, c'est Jésus ressuscité. Le corps du Christ que nous recevons n'est pas son corps mort. Ça peut être un peu bête de dire ça, hein, mais il y a des enfants du cathé, quelquefois, ils disent ben, Jésus, il doit plus en avoir beaucoup de corps, parce que tout le temps qu'il nous donne son corps à manger, hein, c'est pas son corps mort, c'est son corps de résurrection. Et ce que Jésus fait, c'est de prendre du pain pour dire j'en fais le prolongement de mon corps ressuscité, c'est maintenant mon corps ressuscité, et je vous le donne en nourriture. Je vous donne cette nourriture divine, cette nourriture vivifiante. Cette nourriture sainte qui est mon corps de résurrection. Soyez vraiment déjà sur la route de la résurrection par cette communion.